des livres posés sur les boîtes aux lettres, un hall d'immeuble transformé en quasi-bibliothèque. Chez Olivier Norek, la littérature s'invite partout et il en fait profiter ses voisins. Avec 7 polars publiés, il est aussi celui qui tient en haleine les lecteurs avec des enquêtes particulièrement réalistes et au dénouement complète. Et forcément, une partie de cette authenticité provient du terrain, un terrain qu'il a connu en tant qu'ancien capitaine de la police judiciaire à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Mais il insiste, ne le réduisez surtout pas à cette étiquette, pas d'écriture catharsis, car ses romans vont plus loin, tous empreints de convictions sociales, des intrigues, qu'il met aussi à l'écran en tant que scénariste, comme dans Engrenage ou Les Invisibles. On retrouve Olivier Norek pour la saison 2 du Qu'est-ce qu'il lit du monde des livres.
Qu'est-ce qu'il lit ?
Bonjour Olivier Norek.
Bonjour.
Bienvenue au Salon du Livre du Mans, Faites Lire, où nous enregistrons ce podcast. Ensemble, nous allons voyager vers un autre espace-temps, celui de vos lectures. Et peut-être nous allons commencer par l'enfance. Est-ce que l'enfance a rimé avec lecture pour vous ?
Oui, mes deux parents étaient profs au début de leur carrière. Après, ils ont fait bien d'autres choses, mais ils étaient profs. Et donc, le livre a eu une place importante. À tel point que j'étais presque forcé de lire, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai abandonné parce que j'étais forcé. J'ai repris la lecture vers les 30 ans. Mais mes premiers souvenirs de lecture, c'était J'aime lire. J'aime lire, c'était un magazine mensuel. On avait une histoire complète. Il y avait après les jeux de Bonne Mine et puis les aventures de Tom Tom et Nana. J'aime lire, c'était des petites histoires de 30-40 pages, écrites très très gros. Mais c'était vraiment, la porte d'entrée vers des romans un peu plus épais. Mais c'était un rêve à chaque fois qui arrivait au début du mois et je savais que j'allais avoir une aventure à découvrir.
Y a-t-il des livres que l'on vous a forcé à lire plus jeune et que vous avez relus avec plaisir par la suite?
Non, le trauma, c'est un trauma. Quand vraiment un livre a été trop compliqué, j'ai pas eu encore envie d'y revenir. Tout simplement parce que, mon Dieu, je pense qu'on a passé d'une vie. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais qu'on a passé d'une vie pour lire tout ce qu'on voudrait lire. Et une fois que j'ai été un peu blessé par un livre parce que j'ai été forcé de le lire, L'Insurgé de Jules Vallès, Les Balzac et les Zola. Désolé, hein, c'est probablement formidable. Mais non, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie d'y revenir. Je préfère encore découvrir.
Donc, vous n'êtes pas vraiment dans la relecture, même de livres que vous avez lus plus tard?
Non, ni de livres, ni de films, ni de séries. Une fois que c'est fait, je préfère en garder une image, hein, comme une couleur, comme une aura. Je trouve que c'est plus agréable. Et puis, le temps passant, parfois, on tombe amoureux d'un livre, à la fois pour sa plume, à la fois pour l'histoire, mais aussi parce que des fois, il s'inscrit dans un moment de nos vies. L'Attrape-cœur de Salinger, c'est l'histoire d'un gamin qui doit avoir entre 13 et 15 ans, et c'est l'histoire de son entrée dans l'âge adulte. Et moi, quand je l'ai lu, j'étais en pension, j'avais 13 ans, et il m'a touché parce que j'étais en pension, parce que j'avais 13 ans, et parce que moi aussi, je rentrais dans l'âge adulte, et j'ai très très peur de relire L'Attrape-cœur de Salinger.
Parce que identification. Alors, est-ce qu'il y a un personnage littéraire dans lequel vous êtes le plus projeté?
Oh, il y en a beaucoup. Je me suis beaucoup projeté dans les Maigret parce que, en tant que flic, j'aime beaucoup sa manière d'enquêter, qui est une manière très intellectuelle, absolument non violente. J'ai un flic que j'aime beaucoup qui s'appelle Montalbano, qui a été écrit par un Italien qui s'appelle Camilleri. Et Montalbano, c'est un flic pour lequel il est plus important de savoir ce qu'il a dans son frigo que de résoudre l'enquête. Et moi, je place la nourriture au-delà de bien de choses. Oui, et puis après, Fantomas, j'aime bien Fantomas, c'est notre Batman à nous, c'est une sorte de rebelle, de révolutionnaire que j'aime beaucoup.
Vous disiez avoir recommencé à beaucoup lire à la trentaine, au moment où justement vous exerciez en tant que policier. Comment ces livres vous ont peut-être appris du métier? Ou votre expérience peut-être vous a fait repenser à des lectures?
En tant que flic, je ne suis pas monomaniaque. C'est-à-dire que je ne regarde pas des émissions sur les flics, je ne regarde pas tous les reportages sur les flics et je ne lisais pas non plus des romans policiers. Moi, j'étais plutôt sur... si je lisais du Ken Follett, par exemple, c'était plutôt Les Piliers de la Terre. Donc, c'était plutôt des lectures qui me permettaient justement de sortir d'un métier complexe, rugueux, légèrement testostéroné parce que j'étais donc flic dans le 93. J'étais spécialisé dans les enlèvements avec demande de rançon, dans les homicides, et dans les braquages avec coffre et dans les agressions sexuelles. Donc, c'est vrai que quand je rentre à la maison, histoire de laisser les fantômes sur le palier... lire autre chose, ça pouvait être salvateur.
Ça pouvait être salvateur, mais est-ce que lire des choses qui avaient rapport à votre métier vous mettait parfois en colère parce que irréaliste ou autre?
Non. Pas du tout, parce qu'en fin de compte, le polar, il est totalement démocratisé. Et si vous êtes historien, vous allez écrire sur la Révolution française comme Lovenbruck. Si vous êtes scientifique, vous allez matiner vos polars de nouvelles technologies comme Franck-Tillier. Donc en fait, il y a un contrat qui se passe. Moi, je suis flic, donc moi, mes romans, ils sentent le bitume, ils sentent la vérité du terrain et de la procédure. Donc quand je vois des choses qui ne sont pas justes, ça me dérange pas parce que c'est pas le contrat que je passe avec un auteur. Fred Vargas, par exemple, son personnage s'appelle le commissaire Adamsberg. Et lui, il lit son enquête et il trouve ses indices dans les nuages en levant le nez. Il n'y a rien de procédural, elle n'en met pas une dedans. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on lui demande, parce que ce n'est pas le contrat que je passe avec Fred Vargas. Le contrat que je passe avec Fred Vargas, c'est de vivre une enquête un peu éthérée, un peu loufoque avec le commissaire Adamsberg.
Y a-t-il un livre dont vous aimeriez écrire la suite ?
Oui, j'en ai parlé, c'est Fantomas. J'aimerais bien reprendre Fantomas et le mettre justement dans l'actualité, dans la société d'aujourd'hui, voir comment il pourrait un peu faire son révolution. Mais aujourd'hui en 2022. Et de toute façon, dans mes bouquins, il y a déjà beaucoup de faits sociaux. C'est un peu comme le roman noir, il est sociopolitique. Les deux mots veulent dire la même chose. Mais je n'écris pas qu'une enquête. Je cherche toujours un sujet méta. Et il est parfois social, il est parfois politique, il est parfois humain. Et donc déjà, mes livres sont déjà matinés de rébellion et de révolte contre des choses qui me heurtent et qui me blessent. Et il y a ce côté un petit peu parfois fantomas.
Et le livre qui justement vous a réconcilié avec votre propre édition.
C'est un livre de nouvelles, c'est un recueil de nouvelles. C'est La patience des buffles sous la pluie de David Thomas. Ce sont des courtes nouvelles sur des choses parfois insignifiantes, comme faire la queue dans un supermarché. Et il écrit des choses magnifiques. Par exemple, justement, c'est le titre du livre. Parfois, quand il fait la queue au supermarché et que la queue fait 20 mètres, 30 mètres, eh bien, il se résigne à attendre et il a la patience des buffles sous la pluie. J'adore cette image. Et tout le livre comme ça est ponctué d'instants de poésie, un peu comme Mathias Malzieu, quand il écrit La mécanique du cœur, c'est phrase après phrase, ce sont des trouvailles, des perles poétiques que j'aurais adoré leur chourer.
La lecture, ça peut être un appel à la patience ou à l'impatience. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui vous a fait rater votre station ?
Oui, une station de métro, ouais. Police de Hugo Boris. Hugo Boris, c'est un caméléon, c'est une éponge, c'est un ultra empathique. C'est-à-dire qu'il se met à une table, il écoute des gens et très rapidement, en fin de compte, il va réussir à comprendre les émotions, à comprendre ce que les gens vivent. Alors, il s'est installé dans un commissariat et il a regardé une équipe vivre et il a écrit ce livre Police. Et le livre est tellement vrai que j'étais persuadé qu'il était flic lui-même quand j'ai découvert que absolument pas. J'étais à la fois bluffé et puis aussi admiratif et puis un brin jaloux et vexé parce que ma mère a lu ce livre et quand elle l'a terminé, elle m'a dit « c'est pas ça que tu voulais écrire ?»« Bah si, c'est ça que je voulais écrire. C'est cette émotion, ce sont ces personnages, c'est cette force, c'est cette vérité que je voulais écrire et c'est Hugo Boris qui l'a écrit à ma place. »
On en lit un bout ?
Ah oui, avec plaisir. La porte se referme. Virginie a retrouvé son visage dans le miroir. Depuis son entrée dans la police, elle a vu un père enfermer son fils dans un frigo pour le punir et l'y oublier. Un détenu des sous-sols du palais de justice lui crachait au visage pour essayer de lui refiler son hépatite. Des Versaillaises à serre-tête de velours se prostituaient. Une petite vieille de 80 ans se faire défoncer la gueule pour 20 euros. Des pendus se vider dès qu'elle les touchait. Des victimes du chômage de longue durée perdre l'argent qu'ils n'avaient pas en jeu de grattage. Un chat manger les parties molles du visage de son maître décédé depuis une semaine. Les rues de Paris défilaient à plus de 110 km/h, les traces de sang d'un collègue sur l'ordinateur après qu'il s'était tiré une balle dans l'œil. Un enfant survivre à une chute du 4e étage. Elle a vu surnager tout cela parmi les 1000 tâches ingrates qui forment son ordinaire. Elle est allée perdre sa tranquillité d'âme dans les mauvais lieux, obligée de vivre au-dessus de l'étonnement, de tout connaître du pire de l'existence, pour un salaire à peine décent. Et elle se demande toujours comment elle n'a pas les yeux sales, stupéfaite qu'ils n'étaient pas conservés dans leur profondeur, le pâle reflet de la misère.
Ce que vous lisez là, c'est finalement passer en revue toutes les affaires auxquelles, en tant que policier, vous pouvez être confronté en une nuit, en une semaine.
Oui, c'est ça. Alors, en un an, si vous travaillez dans un petit village de campagne, et en trois jours, si vous êtes flic dans le 93. La première année, quand j'étais flic dans le 93, j'ai fait un chien mangeur d'enfants, j'ai fait un violeur en série, et j'ai rapidement compris, en fin de compte, que j'allais vivre ce que l'homme recèle de pire en lui, que j'allais être à un niveau de la société que peu de gens connaissent et qu'il fallait pour ça avoir les épaules, mais surtout savoir laisser les fantômes sur le palier, comme je le disais tout à l'heure.
Mais est-ce que lire ça, ça vous effraie ?
Non, ça m'effraie pas, je connais les mots. En fin de compte, on me demande souvent comment tu fais pour vivre tous les drames concentrés de tous les autres gens. Et moi, je rétorque que moi, je peux faire quelque chose. Je suis proactif sur ça. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment le reste du monde réussit à être témoin sans pouvoir justement agir. Alors, évidemment, j'agis pour une personne Et c'est presque rien, mais pour cette personne, c'est tout. Et c'est ça qui fait qu'en fin de compte, on peut supporter les choses parce qu'on peut peut-être faire quelque chose.
Faire quelque chose, avoir justement la possibilité de changer, c'est aussi ce qu'on recherche dans un héros, peut-être en lisant. Est-ce qu'il y en a un qui vous inspire particulièrement?
Je crois que c'est Montalbano de Camilleri. C'est un flic italien qui réussit à pas du tout à rester totalement étanche à ce qu'il vit parce que en fait son seul intérêt c'est de rentrer chez lui et de voir ce que lui a cuisiné sa femme de ménage. Mais en fin de compte c'est la métaphore de ce flic qui réussit justement à avoir un pare-balles métaphorique, à avoir une protection, une carapace, une armure pour pas se laisser pénétrer par tout ça et en fait réussir à se dire que on est capable de supporter demain. Et c'est ça, un jour après l'autre.
Avez-vous une liste de lectures que vous aimeriez lire avant de mourir ?
Oui, c'est l'anthologie des Sherlock Holmes. J'ai lu une étude en rose, j'ai beaucoup aimé, et quand j'ai vu tout ce qu'il y avait encore à lire, je me suis mis à autre chose. Mais si un jour j'arrive à la retraite avec une cheminée, un chien et un verre de whisky, je crois que j'aimerais bien effectivement commencer tous les Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes est le père de beaucoup de policiers, et puis c'est l'invention surtout du cold reading, la lecture à froid, c'est-à-dire être en face d'une personne et réussir à deviner beaucoup plus que les mots ne disent, deviner par les attitudes, par les vêtements, par la manière de parler, par le vocabulaire, deviner ce qu'il cache. Donc la lecture à froid, ça c'est une invention de Sir Arthur Conan Doyle et on lui a chouré année après année, auteur après auteur et polar après polar.
Vous avez une description de personnage dans la littérature qui vous a particulièrement séduit ?
Je crois que j'ai un énorme faible pour Maigret parce que c'est une sorte de gigantesque continent à la dérive qui avance à cette même vitesse et pourtant que rien ne freine. Et j'aime bien ce côté bonhomme qui fait que bien qu'il soit calme, bien qu'il soit à l'écoute de l'autre, on sait que rien ne va le freiner et on sait qu'il va aller jusqu'au bout du truc. Et généralement dans ce genre de personnage, le flic qui va jusqu'au bout du truc sort ses armes, fait des cascades en voiture et tout ça. Non, lui il reste exactement le même. Il reste ce gigantesque personnage monolithique et pourtant pétri d'émotions, de sentiments, qui garde tout enfoui en lui. Il a une histoire magnifique, une fille qu'il a perdue, une femme qu'il aime et tout ça avance avec ce personnage, mais avec tellement de calme. Mais c'est un peu le calme avant l'orage, et pourtant l'orage ne vient jamais parce que pour lui, ça n'est pas nécessaire. Il n'a pas besoin de déchaîner les enfers pour réussir à avancer. Et j'aime ça, j'aime cette force immense qu'il a.
Est-ce qu'avoir un personnage justement qui revient régulièrement dans des livres qu'on lit, c'est une astuce pour faire aimer lire ?
Alors c'est un rendez-vous. Évidemment, le plus important dans les romans, à mon sens, ce sont les personnages. Je n'ai pas un style de lecture particulier, j'aime une plume. Et ce que me raconte cette plume, en fin de compte, je m'en moque un peu, parce que c'est un rendez-vous avec cette plume que j'aime. Et c'est la même chose avec les personnages. Si on réussit à avoir un personnage empathique, alors quand on vous dit il y a un épisode 2, vous demandez pas un épisode 2 de quoi ? Parce qu'en fait, on s'en moque. On a juste envie de retrouver ce personnage. Dans les romans, ça va être Adamsberg, dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans les séries, ça va être Luther, par exemple, avec Idris Elba. Je me moque de savoir sur quoi ils vont enquêter. J'ai juste envie de retrouver ces personnages parce que c'est l'empathie qu'ils vont provoquer, c'est l'intérêt qu'ils vont provoquer. Parfois du dégoût, de la colère. Il y a des personnages qu'on aime détester. Mais oui, le personnage, c'est un hameçon. Et c'est une manière d'accrocher le lectorat.
Et vous avez un livre d'enfance que vous aimeriez retrouver et lire ?
Oui, c'est L'Histoire sans fin de Michael Ende. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la métaphore de la littérature et de l'écriture. C'est l'histoire d'un gamin qui se fait harceler à l'école et donc il se cache dans une librairie. Le libraire a bien vu qu'il y avait un petit intrus qui était rentré. Il a bien vu qu'il était monté à l'étage. Il a bien vu qu'il regarde un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin. Et il a même vu que ce gamin vole le livre. Et pour le libraire, il se dit écoutez, c'est pas bien grave qu'il me le vole. Le plus important, c'est qu'il lise. Et ce gamin, en lisant ce livre, va s'évader, va vivre une autre vie que la sienne. Et c'est exactement ça. Lire un livre, c'est avoir des vies en leasing. C'est-à-dire, quelle que soit votre vie, vous avez toujours l'occasion ou l'opportunité d'en vivre une autre avec les romans. Et toujours la question qu'on se pose en ouvrant un livre, qui je vais être aujourd'hui ?
Qui allons-nous être aujourd'hui en lisant un extrait ?
C'est une chose bien mystérieuse que les passions humaines. Et il en va de même en cette matière pour les enfants et pour les adultes. Ceux qui sont atteints ne peuvent pas s'expliquer et ceux qui n'ont rien vécu de semblable ne peuvent pas les comprendre. Il y a des hommes qui risquent leur vie pour l'ascension d'un sommet. Personne, pas même eux, ne pourrait vraiment expliquer pourquoi. Il y en a qui se ruinent pour conquérir le cœur d'une certaine personne qui ne veut rien entendre. D'autres courent à leur perte parce qu'ils sont incapables de résister au plaisir de la table ou à ceux de la bouteille. D'autres encore renoncent à tout ce qu'ils possèdent dans l'espoir de gagner à un jeu de hasard ou sacrifient tout à une idée fixe qui ne se concrétisera jamais. Certains croient ne pouvoir être heureux qu'ailleurs, que là où ils sont, et passent leur vie à courir le monde. il y a des gens, enfin, qui n'ont de cesse de devenir puissants. Bref, il y a autant de passions différentes que d'individus. La passion de Bastien Balthazar Bux, c'était les livres. Qui n'a jamais passé tout un après-midi sur un livre, les oreilles en feu et les cheveux en bataille, à lire et lire encore, oublié du monde alentour, insensible à la faim et au froid.
C'est votre définition de la lecture dans laquelle vous vous retrouvez ?
Complètement, et c'est très difficile parce que justement, on est dans un monde qui va à 300 à l'heure, on est dans une forme d'expression qui supporte 280 caractères, on est dans l'immédiateté, dans l'instantanéité, dans la superficialité, on est dans le moment présent et dans l'urgence, alors qu'un bouquin vous demande exactement le contraire. Un bouquin vous demande du silence, un bouquin vous demande de l'attention, et pas sur une minute, pas sur cinq minutes, mais sur des heures et des heures et des heures, et il faut trouver ce temps. C'est presque un défi, en fait, d'ouvrir un livre, c'est presque un défi qu'on lance à la société ou un camouflet. Ok, tout va à 100 à l'heure, et ben moi justement je vais arrêter le temps et je vais lire un bouquin.
Et vous, quand vous ouvrez un livre, en général vous le finissez dans la foulée ?
Absolument pas. Je suis un lecteur très très
par
complexe.
Par intermittence ?
Ouais, par intermittence. J'ai beaucoup de mal à lire, j'ai que très très peu d'endroits dans lesquels j'apprécie lire. Par exemple, le train. Comme je fais beaucoup de dédicaces et que je me balade beaucoup partout dans la France et dans l'Europe, je choisis toujours le train et jamais l'avion. Et quand on me dit, mais en fait, il va y avoir 11 heures de train, alors là, je souris parce que je sais que j'aurai 11 heures de lecture.
Merci Olivier Norek.
Merci à vous.
Votre dernier roman, Dans les brumes de Caplan, est sorti aux éditions Michel Lafon et on peut voir la saison 2 de votre série Les Invisibles sur France 2. Retrouvez tous les épisodes du Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et sur les plateformes de streaming. À bientôt et bonne lecture.